en habit vert. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Hélène Renard.
Madame, Monsieur, bonjour, merci d'avoir choisi Canal Académie. Cette émission en habit vert se veut un hommage à un académicien qui fut un indianiste d'exception, une personnalité rayonnante dans le monde de l'orientalisme. Je veux citer Alfred Fouché, qui fut membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, où il fut élu en 1928 au fauteuil d'Émile Sénard, lui-même éminent indianiste. L'Académie a consacré le 14 décembre 2007 une journée en hommage à Alfred Fouché, dont je précise les dates 1865-1952. Et nul ne sera surpris de savoir que l'organisation de cette journée en hommage était due à un autre éminent orientaliste indianiste de l'Académie, M. Pierre-Sylvain Filioza, que j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui. M. Filioza, bonjour.
Bonjour, madame.
Et merci d'avoir répondu à notre invitation. Je le disais, vous comptez parmi les grands indianiste et sanskritiste contemporain, et votre spécialisation vous a conduit bien sûr à étudier la langue sanskrite, la tradition grammaticale indienne, la philologie, les littératures sanskrites, aussi bien que la littérature religieuse que la littérature scientifique, mais aussi l'architecture, l'iconographie, l'épigraphie, toute discipline intéressante et certainement très difficile. Je voudrais aussi rappeler que vous avez été directeur d'études de sanskrit à l'École pratique des hautes études. Cette école dont on ne parle peut-être pas suffisamment, qui était née à l'initiative de Victor Duruy. Et Alfred Fouché lui-même était directeur d'études dans cette école, en tout cas diplômé de cette école.
Il était diplômé de cette école. C'est là qu'il a reçu l'enseignement de Sylvain Lévy, qui était son aîné juste de quelques années. Donc, il s'est passé là un phénomène qui réalise toute la carrière d'Alfred Fouché, à une époque où il y a eu vraiment une convergence de grands indianistes, de grands orientalistes. Sylvain Lévy est le plus célèbre. Alors, Alfred Fouché, bien, nous désirons le faire connaître parce que, après Sylvain Lévy, c'est peut-être la plus grande figure de cette époque.
Alors, nous ne l'oublions pas ici. Vous avez aussi un autre point commun. Vous êtes tous deux membres de l'École française d'Extrême-Orient. C'est ça aussi, c'est une école prestigieuse à laquelle, d'ailleurs, le nom de votre père, Jean Filioza, reste particulièrement attaché.
Le nom de mon père y est attaché parce qu'il a été, pendant, disons, toute sa carrière, directeur de l'École française d'Extrême-Orient, dans des circonstances quelquefois difficiles. Jean Filioza avait aussi la particularité d'être le disciple, peut-être le favori d'Alfred Fouché. Et si je tiens tellement à parler d'Alfred Fouché, c'est que j'ai pu le voir étant enfant.
Voilà, vous êtes né dans ce milieu d'indianisme.
Je suis né dans ce milieu. Alfred Fouché a été pour moi un bon grand-père. Malheureusement, il est disparu avant que je commence à étudier vraiment et à faire de l'indianisme réellement, mais j'ai toujours eu une très grande admiration pour son œuvre. Et puis, cette ambivalence de la personne, une très grande culture humaniste purement occidentale, et puis l'ouverture totale de l'esprit vers l'Orient.
En effet, quand vous avez évoqué Alfred Fouché dans la grande salle des séances de l'Académie, vous avez insisté à la fois sur son érudition, ce dont personne ne doute, il était à la fois archéologue, historien et philologue, mais aussi sur sa personnalité, sa sensibilité aux êtres humains. C'est un homme qui a assisté, au fond, à la montée de l'indépendance de l'Inde, par exemple. Enfin, il était très sensible au paysage, pas seulement un érudit, aussi un être humain.
Je crois qu'il a beaucoup aimé l'Inde. Il l'a exploré dès un jeune âge, puisqu'il a fait sa première mission, une mission d'un peu plus de 2 ans, en 1895, de 95 à 97. Et ça a été une découverte pour lui d'un pays, d'hommes, aussi bien que d'antiquité bouddhique.
A-t-il visité de nombreuses parties de l'Inde ou s'est-il cantonné dans une partie spécifique ?
Il était cantonné au nord-ouest de l'Inde, à la frontière nord-ouest, à la frontière de ce qui est maintenant l'Afghanistan. parce qu'il était envoyé en mission par l'Académie des inscriptions et belles-lettres et sous la direction d'Émile Senard, qui a été son mentor. Alfred Fouché avait un sens du devoir extrêmement aigu. Et il avait le plus grand respect, la plus grande obéissance à son maître Émile Senard. Donc Alfred Fouché n'est guère sorti du Gandhara, il s'est dépêché d'y aller, mais enfin il a quand même débarqué à Ceylan et il a dû remonter toute l'Inde en passant par Calcutta. Et il a eu le temps d'observer un certain nombre de grands sites et puis surtout d'avoir d'excellents contacts, en particulier avec des Indiens. Et il n'a pas manqué de visiter des écoles sanskrites traditionnelles. C'est cela qui l'a intéressé peut-être le plus dès son premier voyage. Fin 19e siècle, on apprenait le sanskrit avec une grammaire, un dictionnaire, un enseignement modelé sur les méthodes de l'enseignement du latin et du grec de l'époque. Quand Alfred Fouché est arrivé dans une école sanskrite à Calcutta, il a eu le sentiment, il l'a écrit lui-même, qu'il avait tout à réapprendre. Réapprendre la langue, il était arrivé incapable de prononcer une phrase correctement avec une prononciation indienne, incapable de communiquer avec des brahmanes et des lettrés indiens comme on en trouve, on peut en rencontrer encore aujourd'hui. Alors, Fouché a été très attiré par l'Inde. Je crois qu'au départ, il avait plutôt l'esprit littéraire. Et s'il n'avait pas été orienté par sa mission, par Émile Senard, qui l'avait envoyé faire de la prospection archéologique.
C'est-à-dire répertorier les grands lieux qui n'étaient pas très connus à l'époque ou qui n'étaient pas encore répertoriés.
Véritablement explorer pour la première fois un terrain où l'on soupçonnait qu'il y avait une ancienne civilisation bouddhique importante, mais qui était encore à peine connu. Il y avait juste quelques voyageurs, pas du tout indianistes, qui étaient passés par là, qui avaient repéré des ruines de stupas émergeant de terre. Il commençait à y avoir malheureusement du pillage. On a envoyé quelqu'un qui était capable de juger de la valeur archéologique des choses. Alors, Fouché a admirablement accompli sa mission et il a toujours été fier d'avoir réussi, très bien réussi, cette première mission. Il a pu acquérir, comme cela était possible à son époque, un assez grand nombre de statues. Il y a 11 caisses de statues qu'il a été capable d'envoyer et de faire parvenir au musée du Louvre. Si bien que maintenant, on peut voir à l'entrée de la galerie d'Apollon au Louvre, dans les listes en lettres dorées d'explorateurs et de donateurs au musée du Louvre, on peut trouver le nom de Fouché, à côté de celui de Pelliot. Les sculptures ne sont plus au Louvre, elles sont au musée Guimet maintenant.
Voilà, j'allais vous demander, en effet, parce qu'il y a un musée d'art asiatique, donc en fait...
Oui, il est normal qu'elles aient été transférées à cet endroit-là.
Et vous évoquez aussi Paul Pelliot, qui était aussi un membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, je crois.
Alors, qui est encore plus célèbre, je crois, parce qu'il y a un aspect héroïque dans son aventure en Asie centrale et en Chine, dont on se souvient encore.
Alfred Fouché était aussi chargé de répertorier des textes bouddhiques, des manuscrits, du côté littéraire. Vous dites qu'il était attiré.
Il n'en a pas été chargé, mais il s'en est chargé lui-même. Mm-hmm. Et il avait une très grande connaissance de la littérature bouddhique. C'est ça qui lui a permis d'ailleurs de faire des travaux fondamentaux dans le domaine de l'iconographie bouddhique.
Pourrait-on dire qu'il a aidé à faire connaître, ou disons à démêler la légende de l'histoire par rapport au Bouddha ?
Alors, c'est peut-être la chose qu'il a le mieux réussi. Il a, non pas au début de sa carrière, il a travaillé à cela toute sa vie. Il a publié en 1949 une vie du Bouddha qui reste l'ouvrage historique fondamental encore aujourd'hui. Nous n'y ajoutons que très peu de choses. étudier la vie du Bouddha d'après les textes et d'après les images, d'après les monuments, cela vous met uniquement devant quelque chose qui ressemble plus à des mythes, à des légendes, qu'à une réalité historique. Alors, il fallait, avec beaucoup de finesse et beaucoup de sens, de l'imagination orientale, comme on dit, il fallait essayer de reconnaître s'il y avait vraiment quelque chose que l'on puisse accepter comme historique dans toute la littérature d'imagination et d'adoration à l'égard du personnage du Bouddha. Fouché a admirablement réussi.
Fouché était en Inde encore sous domination anglaise, donc avant l'indépendance. Dans quel état trouvait-il les monuments ?
Dans un état épouvantable. Lui-même s'en est plaint. Il acceptait, c'était un homme infiniment aimable, il acceptait toute situation, il savait toujours en tirer le meilleur parti. Et il était, disons, très diplomate. Donc il s'est toujours très bien entendu avec l'administration anglaise coloniale. Mais il a quand même très souvent fait une exception. Avec son humour habituel, parce que c'était un personnage qui avait de grands talents littéraires, qui parlait de la façon la plus affable que j'ai jamais pu entendre, et qui avait toujours une pointe d'humour à ajouter. Alors, il appelait les services archéologiques les pompes funèbres des monuments.
C'est tout dire.
Et puis, quand il a fait son premier voyage, dès son arrivée, il a constaté que le service archéologique de l'Inde venait d'être supprimé par un vice-roi qui s'appelait Lord Elgin et qui était le petit-fils du spoliateur des marbres du Parthénon. Alors Fouché disait, bon, il a compensé les excès de son aïeul en supprimant le service archéologique.
Alfred Fouché a légué tous ses papiers scientifiques et sa correspondance, qui je crois était très abondante. Vous avez cité plus de 10 000 lettres qu'il les a léguées à la Société asiatique. Alors,
oui,
j'aimerais
il
bien
a
que vous en parliez.
Légué cette admirable correspondance, ainsi que tous ses autres papiers. Et puis même quelques manuscrits, quelques objets précieux qu'il possédait. Alors pourquoi s'est-il adressé à la Société asiatique ? C'est parce qu'il avait reconnu en elle l'institution orientaliste la plus durable, la plus stable de toutes celles qui se sont intéressées à l'Inde. La Société asiatique a été fondée en 1822. Elle a toujours vécu des donations et des legs des grands orientalistes français, si bien qu'elle est la mémoire de l'orientalisme français.
Elle a été fondée justement à l'initiative d'un certain nombre d'académiciens.
Elle émane pratiquement de l'Académie.
Oui.
Il y a les noms de Burnouf, Champollion, et à l'origine de sa fondation. Et puis son premier président a été Sylvestre de Sacy.
Et vous-même, maintenant, vous assumez la présidence aussi, ou la vice-présidence de cette Société asiatique ?
Alors, je suis très heureux de pouvoir travailler à servir la Société asiatique, là où mon père, par exemple, a beaucoup travaillé, et puis là où tous les grands indianistes ont laissé leur marque. Alors, Alfred Fouché est particulièrement présent dans nos collections. Il est présent par un grand nombre de cartons remplis de papiers. Il y a beaucoup d'inédits, et puis il y a surtout ces quelques 10 000 lettres qui sont intéressantes parce que il y a les lettres qu'il a reçues, mais il y a surtout les brouillons des lettres qu'il a écrites. C'était une époque où l'on écrivait une lettre à la main et où les meilleurs faisaient des brouillons ou bien gardaient des minutes. Donc Fouché a écrit toutes ses lettres en double. Madame Fouché a souvent servi de secrétaire. Donc quelquefois les doubles sont de la main de Madame Fouché.
Elle-même était indianiste ?
Elle n'était pas indianiste, mais elle a toujours accompagné fidèlement Alfred Fouché, surtout dans ses expéditions en Afghanistan. Je disais donc à propos de la correspondance que nous avons ici un témoignage exceptionnel sur la vie des orientalistes, des indianistes, disons, et particulièrement de ceux qui s'intéressaient à l'archéologie bouddhique pendant toute la première moitié du XXe siècle. C'est donc un document très important pour la mémoire des études orientales. C'est aussi un document littéraire tout à fait exceptionnel. Nous avons toujours beaucoup d'humour. Dans une correspondance, Fouché se permettait évidemment pas des familiarités, mais enfin, il avait un ton, il l'appelait lui-même Prime Sautier. On en trouve des traces presque à chaque page de ses lettres, quel que soit le destinataire, même si c'est son maître Émile Senard, même si c'est les personnes qui respectent le plus, on voit toujours au moins une petite remarque, une pointe d'humour qui apparaît. Et puis Fouché était un grand écrivain.
Un petit détail encore, je crois qu'il existe une école française au Pakistan, à Islamabad, qui s'appelle École Alfred Fouché, qui est une façon de saluer sa mémoire.
Oui, oui, absolument. Et je crois que en Inde même, au Pakistan, en Afghanistan à plus forte raison, on se souvient de lui. On se souvient de lui, en fait, dans toute l'Asie, parce qu'il a été directeur suppléant à la place de Louis Finot dans les premières années d'existence de l'École française d'Extrême-Orient, quand elle avait son siège d'abord à Saïgon et ensuite à Hanoï. Il a été aussi, je crois, directeur de la maison franco-japonaise à Kyoto.
À Kyoto, voilà. Donc vraiment, il couvrait toute l'Asie.
Il a eu des fonctions dans toute l'Asie. Et comme c'était un homme de devoir, qui respectait beaucoup toute instruction qu'on lui avait donnée et qui allait jusqu'au bout pour exécuter ce qu'il y avait de mieux à faire, il a toujours travaillé sincèrement et presque toujours réussi. Le malheur de sa vie, et il s'en est plaint très souvent, il s'en est lamenté très souvent, ça a été de ne pas avoir découvert une ville grecque à Bactre.
Ah voilà, mais ça on en parlera avec un helléniste de votre compagnie, puisque c'est Monsieur Paul Bernard qui viendra
qui vous expliquera le détail de ce qui s'est passé.
D'Alfred Fouché, en effet. Eh bien, Monsieur Filiozard, il me reste qu'à vous remercier d'avoir évoqué la figure de ce grand maître des études indianistes et vous remercier d'être venu à Canal Académie.
Merci beaucoup, madame.